Première partie, chapitre 1er. J'ai un ami. Douceur d'avoir trouvé une âme où se blottit au milieu de la tourmente un abri tendre et sûr où l'on respire enfin, attendant que s'apaisent les battements d'un cœur haletant. N'être plus seul, ne devoir plus rester armé toujours, les yeux toujours ouverts et brûlés par l'éveil, jusqu'à ce que la fatigue vous livre à l'ennemi. Avoir le cher compagnon entre les mains duquel on a remis tout son être, qui a remis en vos mains tout son être. Boire enfin le repos, dormir tandis qu'il veille, veiller tandis qu'il dort. Connaître la joie de protéger celui qu'on aime et qui se confie à vous comme un petit enfant. Connaître la joie plus grande de s'abandonner à lui, de sentir qu'il tient vos secrets, qu'il dispose de vous. Vieilli, usé, lassé de porter depuis tant d'années la vie, renaître jeune et frais dans le corps de l'ami, goûter avec ses yeux le monde renouvelé, étreindre avec ses sens les belles choses passagères, jouir avec son cœur de la splendeur de vivre, souffrir même avec lui. Ah, même la souffrance et joie, pourvu qu'on soit ensemble. J'ai un ami. Loin de moi, près de moi, toujours en moi. Je l'ai, je suis à lui. Mon ami m'aime. Mon ami m'a. L'amour a nos âmes en une âme mêlée. La première pensée de Christophe, en s'éveillant le lendemain de la soirée chez les Roussins, fut pour Olivier Janin. Il fut pris aussitôt du désir irrésistible de le revoir. Il se leva et sortit. 8 heures n'étaient pas sonnées. La matinée était tiède et un peu accablante. Un jour d'avril précoce, une buée d'orage se traînait sur Paris. Olivier habitait au bas de la montagne Sainte-Geneviève, dans une petite rue près du Jardin des Plantes. La maison était à l'endroit le plus étroit de la rue. L'escalier s'ouvrait au fond d'une cour obscure et exhalait des odeurs malpropres et variées. Les marches, au tournant raide, avaient une inclinaison vers le mur, salie d'inscriptions au crayon. Au troisième, une femme aux cheveux gris défaits, avec une camisole qui bâillait, ouvrit la porte en entendant monter, et la referma brutalement quand elle vit Christophe. Plusieurs logements par palier. À travers les portes mal jointes, on entendait des enfants se bousculer et piailler. C'était un grouillement de vies sales et médiocres, entassées dans des étages bas, autour d'une cour nauséabonde. Christophe, dégoûté, se demandait quelle convoitise avait pu attirer tous ces êtres ici, loin des champs qui ont au moins de l'air pour tous, et quel profit il pouvait bien tirer de ce Paris où il se condamnait à vivre dans un tombeau. Il était arrivé à l'étage d'Olivier. Une corde nouée servait de sonnette. Christophe la tira si vigoureusement qu'au bruit, quelques portes de nouveau s'entrebâillèrent sur l'escalier. Olivier ouvrit. Christophe fut frappé de l'élégance simple mais soignée de sa mise. Et ce soin, qui, en toute autre occasion, lui eût été peu sensible, lui fit ici une surprise agréable. Au milieu de cette atmosphère souillée, cela avait quelque chose de souriant et de sain. Tout de suite, il retrouva son impression de la veille devant les yeux clairs d'Olivier. Il lui tendit la main. Olivier, effrayé, balbutiait, « Vous, vous ici ?» Christophe, tout occupé de saisir cette âme aimable dans la nudité de son trouble fugitif, se contenta de sourire sans répondre. Poussant Olivier devant lui, il entra dans l'unique pièce qui servait de chambre à coucher et de cabinet de travail. Un étroit lit de fer était appuyé au mur près de la fenêtre. Christophe remarqua la pile d'oreillers dressée sur le traversin. 3 chaises, une table peinte en noir, un petit piano, des livres sur les rayons remplissaient la chambre. Elle était exiguë, basse de plafond, mal éclairée. Et pourtant elle avait comme un reflet de la limpidité des yeux qui l'habitaient. Tout était propre, bien rangé, comme si la main d'une femme y avait passé. Et quelques roses dans une carafe faisaient entrer un peu de printemps entre les 4 murs, ornés de photographies de vieux peintres florentins. « Ainsi, vous êtes venu. Vous êtes venu me voir, » répétait Olivier avec effusion. « Dame, il le fallait bien, » dit Christophe. « Vous, vous ne seriez pas venu. »« Croyez-vous, » dit Olivier. puis presque aussitôt, « Oui, vous avez raison, mais ce n'est pas faute d'y avoir pensé. »« Qu'est-ce qui vous arrêtait ?»«
Je le désirais trop. » »«
Voilà une belle raison. » »«
Mais oui, ne vous moquez pas. J'avais peur que vous ne le désiriez pas autant. »«
Je me suis bien inquiété de cela, moi. J'ai eu envie de vous voir et je suis venu. Si cela vous ennuie, je le verrai bien. »
« Il faudra que vous ayez de bons yeux. »
Ils se regardèrent en souriant. Olivier reprit, « J'ai été sot hier. Je craignais de vous avoir déplu. C'est une vraie maladie que ma timidité. Je ne puis plus rien dire. » « Ne vous plaignez pas. Il y a assez de gens qui parlent dans votre pays. On est trop heureux d'en rencontrer un qui se taise de temps en temps, fût-ce par timidité, c'est-à-dire malgré lui. » Christophe riait, enchanté de sa malice.
« Alors, c'est pour mon silence que vous me faites visite ?»«
Oui, c'est pour votre silence, pour la qualité de votre silence. Il y en a de toutes sortes. J'aime le vôtre, voilà tout. »«
Comment avez-vous fait pour avoir quelque sympathie pour moi ? Vous m'avez à peine vu. »«
Cela, c'est mon affaire. Je ne suis pas long à faire mon choix. Quand je vois passer dans la vie un visage qui me plaît, je suis vite décidé. Je me mets à sa poursuite. Il faut que je le rejoigne. »
« Il ne vous arrive jamais de vous tromper dans ces poursuites ?»«
Souvent. »«
Peut-être vous trompez-vous encore cette fois. »«
Nous verrons bien. »«
Oh, je suis perdu alors, vous me glacez. »«
Il me suffit de penser que vous m'observez pour que le peu de moyens que j'ai m'abandonne. »
Christophe regardait avec une curiosité affectueuse cette figure impressionnable qui rosissait et pâlissait d'un instant à l'autre. Les sentiments y passaient comme des nuages sur l'eau.
« Quel petit être nerveux, pensait-il, on dirait une femme. »
Il lui toucha doucement le genou. « Allons, dit-il, croyez-vous que je vienne armé contre vous ? J'ai horreur de ceux qui font de la psychologie aux dépens de leurs amis. Tout ce que je veux, c'est le droit pour tous deux d'être libres et sincères, de se livrer à ce qu'on sent, franchement, sans fausse honte, sans crainte de s'y enfermer pour jamais, sans peur de se contredire. » Le droit d'aimer maintenant et de n'aimer plus la minute d'après. N'est-ce pas plus viril et plus loyal ainsi ?
Olivier le regarda avec sérieux et répondit, « Il n'y a point de doute, cela est plus viril, et vous êtes fort, mais moi je ne le suis guère. »
« Je suis bien sûr que si, répondit Christophe, mais c'est d'une autre façon. Au reste, je viens justement pour vous aider à être fort, si vous voulez. » Car ce que je viens de dire me permet d'ajouter, avec plus de franchise que je n'en aurais eu sans cela, que, sans préjuger du lendemain, je vous aime. »
Olivier rougit jusqu'aux oreilles. Immobilisé par la gêne, il ne trouva rien à répondre. Christophe promenait ses regards autour de lui.
« Vous êtes bien mal logé. N'avez-vous pas d'autre chambre ?
Un cabinet de débarras.
Ouf, on ne respire pas. Vous pouvez vivre ici ?
On s'y fait. Je ne m'y ferai jamais. »
Christophe ouvrait son gilet et respirait avec force. Olivier alla ouvrir la fenêtre tout à fait.
« Vous devez toujours être mal à l'aise dans une ville, monsieur Kraft. Moi, je ne cours pas le risque de souffrir de ma force. Je respire si peu que je trouve à vivre partout. Pourtant, il y a des nuits d'été qui sont pénibles, même pour moi. Je les vois venir avec crainte. Alors, je reste assis sur mon lit et il me semble que je vais étouffer. »
Christophe regarda la pile d'oreillers sur le lit, la figure fatiguée d'Olivier, et il le vit se débattre dans les ténèbres.
« Partez d'ici, dit-il. Pourquoi y restez-vous ? »
Olivier haussa les épaules et répondit d'un ton indifférent, « Oh, ici ou ailleurs. » Des souliers lourds marchaient au-dessus du plafond. À l'étage au-dessous, des voix aigres se disputaient. De minute en minute, les murs étaient ébranlés par le grondement de l'omnibus dans la rue.
« Et cette maison, continua Christophe, cette maison qui transpire la saleté, la chaleur malpropre, l'ignoble misère, comment pouvez-vous rentrer tous les soirs là-dedans ? Est-ce que cela ne vous décourage pas ? Moi, il me serait impossible d'y vivre. J'aimerais mieux coucher sous un pont. »
J'en ai souffert aussi, les premiers temps. Je suis aussi dégoûté que vous. Quand j'étais enfant et qu'on me menait en promenade, rien que de passer dans certaines rues populeuses et sales, j'avais le cœur serré. Il me venait des terreurs baroques que je n'osais dire. Je pensais, s'il y avait en ce moment un tremblement de terre, je resterais mort ici pour toujours. Et cela me paraissait le malheur le plus affreux. Je ne me doutais pas qu'un jour j'y habiterais de mon gré et que probablement j'y mourrais. Il a bien fallu devenir moins difficile. Cela me répugne toujours, mais je tâche de n'y plus penser. Quand je remonte l'escalier, je me bouche les yeux, les oreilles, le nez, tous les sens. Je me mure en moi. Et puis, là-bas, regardez par-dessus ce toit, je vois le haut des branches d'un acacia. Je me mets dans ce coin de façon à ne rien voir d'autre. Le soir, quand le vent les remue, j'ai l'illusion que je suis loin de Paris. La houle des grands bois ne m'a jamais paru si douce qu'à certaines minutes le froissement soyeux de ses feuilles dentelées. « Oui, je me doute bien, dit Christophe, que vous rêvassez toujours. Mais il est fâcheux d'user dans cette lutte contre les taquineries de la vie une force d'illusion qui devrait servir à créer d'autres vies. N'est-ce pas le sort de presque tous? Vous-même, ne vous dépensez-vous pas en colère et en lutte? Moi, ce n'est pas la même chose. Je suis né pour cela. Regardez mes bras, mes mains. C'est ma santé de me battre. Et vous, vous n'avez pas trop de force. Cela se voit, du reste. » Olivier regarda mélancoliquement ses poignets maigres et dit « Oui, je suis faible, j'ai toujours été ainsi. Mais qu'y faire? Il faut vivre. » « Comment vivez-vous? » « Je donne des leçons. » « Des leçons de quoi? » « De tout. Des répétitions de latin, de grec, d'histoire. Je prépare au baccalauréat. J'ai aussi un cours de morale dans une école municipale. » « Un cours de quoi? » « De morale. » « Quel diable de sottise, c'est cela? On enseigne la morale dans vos écoles ?» Olivier sourit. « Sans doute. » « Et il y a de quoi parler pendant plus de 10 minutes ?»« J'ai 12 heures de cours par semaine. » « Vous leur apprenez donc à faire le mal ?»« Pourquoi ?»« Il ne faut pas tant parler pour savoir ce qu'est le bien. » »« Ou pour ne le savoir point ?»« Ma foi, oui, pour ne le savoir point. » »« Et ce n'est pas la plus mauvaise façon pour le faire. » Le bien n'est pas une science, c'est une action. Il n'y a que les neurasthéniques pour discutailler sur la morale. Et la première de toutes les lois morales est de ne pas être neurasthénique. Diable de pédants, ils sont comme des culs de jatte qui voudraient m'apprendre à marcher. Ce n'est pas pour vous qu'ils parlent. Vous, vous savez. Mais il y en a tant qui ne savent pas. Eh bien, laissez-les, comme les enfants, se traîner à 4 pattes jusqu'à ce qu'ils aient appris d'eux-mêmes. Mais sur 2 pattes ou sur 4, la première chose, c'est qu'il marche. Il marchait à grands pas d'un bout à l'autre de la chambre, que moins de 4 enjambées suffisaient à mesurer. Il s'arrêta devant le piano, l'ouvrit, feuilleta les morceaux de musique, toucha le clavier, et dit « Jouez-moi quelque chose ». Olivier eut un sursaut. « Moi, fit-il, quelle idée ! Madame Roussin m'a dit que vous étiez bon musicien. Allons, jouez !» « Devant vous ? Oh, dit-il, j'en mourrai !» Ce cri naïf, sorti du cœur, fit rire Christophe, et Olivier lui-même, un peu confus. « Eh bien, dit Christophe, est-ce que c'est une raison pour un Français ?» Olivier se défendait toujours. « Mais pourquoi ? Pourquoi voulez-vous ? Je vous le dirai tout à l'heure. Jouez !»« Quoi ? Tout ce que vous voudrez. » Olivier, avec un soupir, vint s'asseoir au piano, et, docile à la volonté de l'impérieuse amie qu'il avait choisie, il commença, après une longue incertitude, à jouer le bel adagio en si mineur de Mozart. D'abord, ses doigts tremblaient et n'avaient pas la force d'appuyer sur les touches. Puis, peu à peu, il s'enhardit, et, croyant ne faire que répéter les paroles de Mozart, il dévoila, sans le savoir, son cœur. La musique est une confidente indiscrète. Elle livre les plus secrètes pensées. Sous le divin dessin de l'adagio de Mozart, Christophe découvrait les invisibles traits, non de Mozart, mais de l'ami inconnu qui jouait. La sérénité mélancolique, le sourire timide et tendre de cet être nerveux, pur, aimant, rougissant. Mais arrivé presque à la fin de l'air, au sommet où la phrase de douloureux amour monte et se brise, une pudeur insurmontable empêcha Olivier de poursuivre. Ses doigts se turent, et la voix lui manqua. Il détacha ses mains du piano et dit « Je ne peux plus ». Christophe, debout derrière lui, se pencha, ses 2 bras l'entourant, acheva sur le piano la phrase interrompue. Puis il dit « Maintenant je connais le son de votre âme. » Il lui tenait les deux mains et le regarda en face longuement. Enfin il dit, « Comme c'est étrange. Je vous ai déjà vu. Je vous connais si bien et depuis si longtemps. » Les lèvres d'Olivier tremblèrent. Il fut sur le point de parler, mais il se tut. Christophe le contempla un instant encore, puis il lui sourit en silence et sortit. Le cœur rayonnant, il descendit l'escalier. Il croisa deux morveux très laids qui montaient l'un une miche, l'autre une bouteille d'huile. Il leur pinça les joues amicalement. Il sourit au concierge renfrogné. Dans la rue, il marchait en chantant à mi-voix. Il se trouva au Luxembourg. Il s'étendit sur un banc à l'ombre et ferma les yeux. L'air était immobile. Il y avait peu de promeneurs. On entendait, affaibli, le bruit inégal d'un jet d'eau et parfois le grésillement du sable sous un pas. Christophe se sentait une fainéantise irrésistible. Il s'engourdissait comme un lézard au soleil. L'ombre était depuis longtemps partie de dessus son visage, mais il ne se décidait pas à faire un mouvement. Ses pensées tournaient en rond. Il n'essayait pas de les fixer. Elles étaient toutes baignées dans une lumière de bonheur. L'horloge du Luxembourg sonna. Il ne l'écouta pas. Mais, un instant après, il lui sembla qu'elle avait sonné midi. Il se releva d'un bond, constata qu'il avait flâné 2 heures, manqué un rendez-vous chez Hecht, perdu sa matinée. Il rit et regagna sa maison en sifflant. Il fit un rondeau en canon sur le cri d'un marchand. Même les mélodies tristes prenaient en lui une allure réjouie. En passant devant la blanchisserie de sa rue, il jeta, comme d'habitude, un coup d'œil dans la boutique et vit la petite rousotte, au teint mat, rosée par la chaleur, qui repassait, ses bras grêles nus jusqu'à l'épaule, son corsage ouvert. Elle lui lança, comme d'habitude, une œillade effrontée. Pour la première fois, ce regard glissa sur le sien sans l'irriter. Il rit encore. Dans sa chambre, il ne retrouva aucune des préoccupations qu'il y avait laissées. Il jeta à droite, à gauche, chapeau, veste et gilet. Et il se mit au travail, avec un entrain à conquérir le monde. Il reprit les brouillons musicaux, éparpillés de tous côtés. Sa pensée n'y était pas. Il les lisait des yeux seulement. Au bout de quelques minutes, il retombait dans la somnolence heureuse du Luxembourg, la tête ivre. Il s'en aperçut 2 ou 3 fois, essaya de se secouer, mais en vain. Il jura gaiement, et se levant, il se plongea la tête dans sa cuvette d'eau froide. Cela le dégrisa un peu. Il revint s'asseoir à sa table, silencieux, avec un vague sourire. Il songeait, quelle différence y a-t-il entre cela et l'amour? Instinctivement, il s'était mis à penser bas, comme s'il avait eu honte. Il haussa les épaules. Il n'y a pas 2 façons d'aimer, ou plutôt si, il y en a 2. Il y a la façon de ceux qui aiment avec tout eux-mêmes, et la façon de ceux qui ne donnent à l'amour qu'une part de leur superflu. Dieu me préserve de cette ladrerie de cœur. Il s'arrêta de penser, par une pudeur à poursuivre plus avant. Longtemps, il resta à sourire à son rêve intérieur. Son cœur chantait dans le silence. « Du bist mein, und nun ist das meine meiner als jemals. » »« Tu es à moi, et maintenant je suis à moi, comme je ne l'ai jamais été. » Il prit une feuille et, tranquille, écrivit ce que son cœur chantait. Ils décidèrent de prendre un appartement en commun. Christophe voulait qu'on s'installât tout de suite, sans s'inquiéter de perdre un demi-terme. Olivier, plus prudent, quoiqu'il n'aimât pas moins, conseillait d'attendre l'expiration de leur loyer. Christophe ne comprenait pas ses calculs. Comme beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, il ne s'inquiétait pas d'en perdre. Il se figura qu'Olivier était encore plus gêné que lui. Un jour que le dénuement de son ami l'avait frappé, il le quitta brusquement et revint 2 heures après, étalant triomphant quelques pièces de 100 sous qu'il s'était fait avancer par Hecht. Olivier rougit et refusa. Christophe, mécontent, voulut les jeter à un Italien qui jouait dans la cour. Olivier l'en empêcha. Christophe repartit, blessé en apparence, en réalité furieux contre lui-même de sa maladresse, à laquelle il attribuait le refus d'Olivier. Une lettre de son ami vint mettre un baume sur sa blessure. Olivier lui écrivait ce qu'il ne pouvait lui exprimer de vive voix, son bonheur de le connaître et son émotion de ce que Christophe avait voulu faire pour lui. Christophe riposta par une lettre débordante et folle, qui rappelait celle qu'il écrivait à 15 ans à son ami Otto. Elle était pleine de gemut, cœur, âme, et de coq à l'âne. Il y faisait des calembours en français et en allemand, et même il le mettait en musique. Ils s'installèrent enfin. Ils avaient trouvé dans le quartier Montparnasse, près de la place d'Enfer, au 5e d'une vieille maison, un logement de 3 pièces et une cuisine, fort petite, qui donnait sur un jardin minuscule, enclos entre 4 murs. De l'étage où ils étaient, la vue s'étendait par-dessus le mur d'en face, moins élevé que les autres, sur un de ces grands jardins de couvent, comme il y en a encore tant à Paris, qui se cachent ignorés. On ne voyait personne dans les allées désertes. Les vieux arbres, plus hauts et plus touffus que ceux du Luxembourg, frissonnaient au soleil. Des bandes d'oiseaux chantaient dès l'aube, c'étaient les flûtes des merles et puis le choral tumultueux et rythmé des moineaux. Et le soir, en été, les cris délirants des martinets qui fendaient l'air lumineux et patinaient dans le ciel. Et la nuit, sous la lune, telles les bulles d'air qui montent à la surface d'un étang, les notes perlées des crapauds. On eût oublié que Paris était là, si la vieille maison n'eût constamment tremblé du grondement des lourdes voitures, comme si la terre avait été remuée par un frisson de fièvre. L'une des chambres était plus large et plus belle que les autres. Ce fut un débat entre les deux amis à qui ne l'aurait pas. Il fallut la tirer au sort, et Christophe, qui en avait suggéré l'idée, sut, avec une mauvaise foi et une dextérité dont il ne se serait pas cru capable, faire en sorte qu'il ne gagnât point. Alors commença pour eux une période de bonheur absolu. Le bonheur n'était pas dans une chose précise, il était dans toutes à la fois. Ils baignaient tous leurs actes et toutes leurs pensées, ils ne pouvaient se détacher d'eux un seul instant. Durant cette lune de miel de leur amitié, ces premiers temps de jubilation profonde et muette, que connaît seul celui qui peut, dans l'univers, nommer une âme sienne. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt, auf dem Erdenrund. Ils se parlaient à peine ils osaient parler. Il leur suffisait de se sentir l'un à côté de l'autre, d'échanger un regard, un mot qui leur prouvait que leurs pensées, après de longs silences, suivaient le même cours. Sans se faire de questions, même sans se regarder, ils se voyaient sans cesse. Celui qui aime se modèle inconsciemment sur l'âme de celui qu'il aime. Il a si grand désir de ne pas le blesser, d'être tout ce qu'il est, que par une intuition mystérieuse et soudaine, il lit au fond de lui les mouvements imperceptibles. L'ami est transparent à l'ami. Ils échangent leur être. Les traits imitent les traits. L'âme imite l'âme, jusqu'au jour où la force profonde, le démon de la race, se délivre brusquement et déchire l'enveloppe de l'amour qui le lie. Christophe parlait à mi-voix. Il marchait doucement. Il prenait garde de faire du bruit dans la chambre voisine du silencieux Olivier. Il était transfiguré par l'amitié. Il avait une expression de bonheur, de confiance, de jeunesse, qu'on ne lui avait jamais vue. Il adorait Olivier. Il eût été bien facile à celui-ci d'abuser de son pouvoir s'il n'en avait rougi comme d'un bonheur qu'il ne méritait pas, car il se regardait comme très inférieur à Christophe, qui n'était pas moins humble. Cette humilité mutuelle, qui venait de leur grand amour, était une douceur de plus. Il était délicieux, même avec la conscience qu'on ne le méritait pas, de sentir qu'on tenait tant de place dans le cœur de l'ami. Ils en avaient l'un pour l'autre une reconnaissance attendrie. Olivier avait réuni ses livres à ceux de Christophe. Il ne les distinguait plus. Quand il parlait de l'un d'eux, il ne disait pas « mon livre », il disait « notre livre ». Il n'y avait qu'un petit nombre d'objets qu'il réservait sans les fondre dans le trésor commun. C'était ceux qui avaient appartenu à sa sœur ou qui étaient associés à son souvenir. Christophe, avec la finesse de tact que l'amour lui avait donnée, ne tarda pas à le remarquer. Mais il ignorait pourquoi. Jamais il n'avait osé interroger Olivier sur ses parents. Il savait seulement qu'Olivier les avait perdus, et, à la réserve un peu fière de son affection, qui évitait de s'enquérir des secrets de son ami, s'ajoutait la peur de réveiller en lui les douleurs passées. Quelque désir qu'il en eût, une timidité singulière l'avait même empêché d'examiner de près les photographies qui étaient sur la table d'Olivier et qui représentaient un monsieur et une dame en des poses cérémonieuses et une petite fille d'une douzaine d'années avec un grand chien espagnol à ses pieds. Deux ou trois mois après leur installation, Olivier prit un refroidissement. Il lui fallut s'aliter. Christophe, qui s'était découvert une âme maternelle, veillait sur lui avec une affection inquiète. Et le médecin, qui avait, en écoutant Olivier, trouvé un peu d'inflammation au sommet du poumon, avait chargé Christophe de badigeonner le dos du malade avec de la teinture d'iode. Comme Christophe s'acquittait de la tâche avec beaucoup de gravité, il vit autour du cou d'Olivier une médaille de sainteté. Il connaissait assez Olivier pour savoir que, plus encore que lui-même, il était affranchi de toute foi religieuse. Il ne put s'empêcher de montrer son étonnement. Olivier rougit. Il dit « C'est un souvenir. Ma pauvre petite Antoinette la portait en mourant. » Christophe tressaillit. Le nom d'Antoinette fut un éclair pour lui. « Antoinette » dit-il. « Ma sœur » dit Olivier. Christophe répétait « Antoinette, Antoinette Janin, elle était votre sœur ?»« Mais, dit-il, regardant la photographie qui était sur la table, elle était tout enfant quand vous l'avez perdue ?» Olivier sourit tristement. « C'est une photographie d'enfance, dit-il. Hélas, je n'en ai pas d'autre. Elle avait 25 ans lorsqu'elle m'a quitté. »« Ah !» fit Christophe ému. « Et elle a été en Allemagne, n'est-ce pas ?» Olivier fit signe de la tête que oui. Christophe saisit les mains d'Olivier. « Mais je la connaissais, dit-il. »« Je le sais bien, dit Olivier. » Il se jeta au cou de Christophe. « pauvre petite, » répétait Christophe. Ils pleurèrent tous deux. Christophe se ressouvint qu'Olivier était souffrant. Il tâcha de le calmer, l'obligea à rentrer ses bras dans le lit, lui ramena les draps sur les épaules, et, lui essuyant maternellement les yeux, il s'assit à son chevet, et il le regarda. « Voilà donc, dit-il, pourquoi je te connaissais. Dès le premier soir, je t'avais reconnu. » On ne savait s'il parlait à l'ami qui était là ou à celle qui n'était plus. « Mais toi, continua-t-il après un moment, tu le savais. Pourquoi ne me le disais-tu pas ?» Par les yeux d'Olivier, Antoinette répondit « Je ne pouvais pas le dire. C'était à toi de le lire. » Ils se turent quelque temps. Puis, dans le silence de la nuit, Olivier, immobile, étendu dans son lit, à voix basse, raconta à Christophe, qui lui tenait la main, l'histoire d'Antoinette. Mais il ne lui dit pas ce qu'il ne devait pas dire, le secret qu'elle avait eu, et que Christophe savait, peut-être. Dès lors, l'âme d'Antoinette les enveloppa tous deux. Quand ils étaient ensemble, elle était avec eux. Il n'était pas nécessaire qu'ils pensassent à elle. Tout ce qu'ils pensaient ensemble, ils le pensaient en elle. Son amour était le lieu où leur cœur s'unissait. Olivier évoquait son image souvent. C'étaient des souvenirs décousus, de brèves anecdotes. Il faisait reparaître, dans une lueur passagère, un de ses gestes timides et gentils, son jeune sourire sérieux, la grâce pensive de son être évanoui. Christophe écoutait, se taisant, et il se pénétrait des reflets de l'invisible ami. Par la loi de sa nature, qui buvait plus avidement que tout autre la vie, il entendait parfois dans les paroles d'Olivier des résonances profondes qu'Olivier n'entendait pas, et il s'assimilait, mieux qu'Olivier même, l'être de la jeune morte. D'instinct, il la remplaçait auprès d'Olivier. Et c'était un spectacle touchant de voir le gauche allemand retrouver, sans le savoir, certaines des attentions délicates des prévenances d'Antoinette. Il ne savait plus, par moments, si c'était Olivier qu'il aimait dans Antoinette ou Antoinette dans Olivier. Par une inspiration de tendresse, il allait, sans le dire, faire visite à la tombe d'Antoinette, et il y apportait des fleurs. Olivier fut longtemps avant de s'en douter. Il ne l'apprit qu'un jour où il trouva sur la tombe des fleurs fraîches. Mais ce ne fut pas sans peine qu'il parvint à avoir la preuve que Christophe était venu. Quand il essaya timidement de lui en parler, Christophe détourna l'entretien avec une rudesse bourrue. Il ne voulait pas permettre qu'Olivier le sût, et il s'y entêta jusqu'au jour où, au cimetière d'Ivry, ils se rencontrèrent. De son côté, Olivier écrivait à la mère de Christophe, à l'insu de celui-ci. Il donnait à Louisa des nouvelles de son fils. Il lui disait l'affection qu'il avait pour lui et combien il l'admirait. Louisa répondait à Olivier des lettres maladroites et humbles, où elle se confondait en remerciements. Elle parlait toujours de son fils comme d'un petit garçon. Après une période de demi-silence amoureux, un calme ravissant, jouissant sans savoir pourquoi, leur langue s'était déliée. Ils passaient des heures à voguer à la découverte dans l'âme de l'ami. Ils étaient bien différents l'un de l'autre, mais tous deux d'un pur métal. Ils s'aimaient parce qu'ils étaient si différents, tout en étant les mêmes. Olivier était faible, débile, incapable de lutter contre les difficultés. Quand il se heurtait à un obstacle, il se repliait, non par peur, mais un peu par timidité, et beaucoup par dégoût des moyens brutaux et grossiers qu'il fallait employer pour vaincre. Il gagnait sa vie en donnant des répétitions, en écrivant des livres d'art honteusement payés, suivant l'habitude, des articles de revue, rares, jamais libres, et sur des sujets qui l'intéressaient médiocrement. On ne voulait pas de ceux qui l'intéressaient. Jamais on ne lui demanda ce qu'il pouvait faire le mieux. Il était poète, on lui demandait des articles de critique. Il connaissait la musique, on voulait qu'il parlât de peinture. Il savait qu'il n'en pouvait rien dire que de médiocre. C'était justement cela qui plaisait. Ainsi, il parlait aux médiocres la langue qu'il pouvait entendre. Il finissait par se dégoûter et refusait d'écrire. Il n'avait de plaisir à travailler que pour de petites revues qui ne payaient pas et auxquelles il se dévouait, comme tant d'autres jeunes gens, parce qu'il y était libre. Là seulement, il pouvait faire paraître tout ce qui, en lui, valait de vivre. Il était doux, poli, patient en apparence, mais d'une sensibilité excessive. Une parole un peu vive le blessait jusqu'au sang. Une injustice le bouleversait. Il en souffrait pour lui et pour les autres. Certaines vilenies, commises il y avait des siècles, le déchiraient encore comme s'il en avait été la victime. Il pâlissait, il frémissait, il était malheureux en pensant au malheur de celui qui les avait subis, et combien de siècles le séparaient de sa sympathie. Quand il était le témoin d'une de ces injustices, il tombait dans des accès d'indignation qui le faisaient trembler de tout son corps, et parfois le rendaient malade, l'empêchaient de dormir. C'était parce qu'il connaissait cette faiblesse qu'il s'imposait son calme. Car lorsqu'il se fâchait, il savait qu'il passait les limites et disait alors des choses qu'on ne pardonnait pas. On lui en voulait plus qu'à Christophe, qui était toujours violent, parce qu'il semblait qu'Olivier livrât plus que Christophe, dans ses moments d'emportement, le fond de sa pensée. Il jugeait les hommes sans les exagérations aveugles de Christophe, mais sans ses illusions, avec lucidité. C'est ce que les hommes pardonnent le moins. Il se taisait donc, évitait de discuter, sachant l'inutilité de la discussion. Il avait souffert de cette contrainte. Il avait souffert davantage de sa timidité, qui l'amenait quelquefois à trahir sa pensée, ou à ne pas oser la défendre jusqu'au bout, voire même à faire des excuses, comme dans la discussion avec Lucien Lévicœur au sujet de Christophe. Il avait passé par bien des crises de désespoir, avant de prendre son parti du monde et de lui-même. Dans ses années d'adolescence, où il était plus livré à ses nerfs, perpétuellement alternaient en lui des périodes d'exaltation et des périodes de dépression, se suivant d'une façon brusque. Au moment où il se sentait le plus heureux, il pouvait être sûr que le chagrin le guettait. Et soudain, en effet, il était terrassé par lui, sans l'avoir vu venir. Alors, il ne lui suffisait pas d'être malheureux, il fallait qu'il se reprochât son malheur, qu'il fît le procès de ses paroles, de ses actes, de son honnêteté, qu'il prît le parti des autres contre lui-même. Son cœur sautait dans sa poitrine, il se débattait misérablement, l'air lui manquait. Depuis la mort d'Antoinette, et peut-être grâce à elle, grâce à la lumière apaisante qui rayonne de certains morts aimés, comme la lueur de l'aube qui rafraîchit les yeux et l'âme des malades, Olivier était parvenu, sinon à se dégager de ses troubles, du moins à s'y résigner et à les dominer. Peu de gens se doutaient de ses combats intérieurs. Il en renfermait en lui le secret humiliant, cette agitation déréglée d'un corps débile et tourmenté, que considérait, sans pouvoir s'en rendre maîtresse, mais sans en être atteinte, une intelligence libre et sereine, la paix centrale qui persiste au cœur d'une agitation sans fin. Elle frappait Christophe, il la voyait dans les yeux d'Olivier. Olivier avait l'intuition des âmes et une curiosité d'esprit large, subtile, ouverte à tout, qui ne niait rien, qui ne haïssait rien, qui contemplait le monde avec une généreuse sympathie. Cette fraîcheur du regard, qui est un don sans prix et permet de savourer d'un cœur toujours neuf l'éternel renouveau. Dans cet univers intérieur où il se sentait libre, vaste, souverain, il oubliait sa faiblesse et ses angoisses physiques. Il y avait même quelque douceur à contempler de loin, avec une ironique pitié, ce corps souffreteux toujours prêt à disparaître. Ainsi, l'on ne risquait pas de s'attacher à sa vie, et l'on ne s'en attachait que plus passionnément à la vie. Olivier reportait dans l'amour et dans l'intelligence toutes les forces qu'il avait abdiquées dans l'action. Il n'avait pas assez de sève pour vivre de sa propre substance. Il était lierre, il lui fallait se lier. Il n'était jamais si riche que quand il se donnait. C'était une âme féminine qui avait toujours besoin d'aimer et d'être aimée. Il était né pour Christophe. Tels ses amis aristocratiques des charmants, qui sont l'escorte des grands artistes et semblent avoir fleuri de leur âme puissante. Beltraffio de Léonard, Cavaliere de Michel-Ange, les compagnons ombriens du jeune Raphaël, Aert van Gelder, restés fidèles à Rembrandt, misérable et vieilli. Ils n'ont pas la grandeur des maîtres, mais il semble que tout ce qu'il y a de noble et de pur chez les maîtres, ce soit chez les amis encore spiritualisé. Ils sont les compagnes idéales des génies. Leur amitié était un bienfait pour tous deux. La présence de l'ami communique à la vie tout son prix. Et c'est pour lui que l'on vit, qu'on défend contre l'usure du temps l'intégrité de son être. Ils s'enrichissaient l'un de l'autre. Olivier avait la sérénité de l'esprit et le corps maladif. Christophe avait une puissante force et une âme tumultueuse. C'était l'aveugle et le paralytique. Maintenant qu'ils étaient ensemble, ils se sentaient bien riches. À l'ombre de Christophe, Olivier reprenait goût à la lumière. Christophe lui transfusait un peu de son abondante vitalité, de sa robustesse physique et morale, qui tendait à l'optimisme même dans la douleur, même dans l'injustice et même dans la haine. Christophe prenait bien davantage à Olivier, selon la loi du génie qui a beau donner, il prend toujours en amour beaucoup plus qu'il ne donne, quia nominor Léo, parce qu'il est le génie et que le génie, c'est pour moitié de savoir absorber tout ce qu'il y a de grand autour et de le faire plus grand. La sagesse populaire dit qu'au riche va la richesse. La force va au fort. Christophe se nourrissait de la pensée d'Olivier, il s'imprégnait de son calme intellectuel, de son détachement d'esprit, de cette vue lointaine des choses qui comprenait et dominait en silence. Mais transplanté en lui, dans une terre plus riche, les vertus de son ami poussaient avec une bien autre énergie. Il s'émerveillait de ce qu'il découvrait l'un dans l'autre. Chacun apportait des richesses immenses, dont lui-même jusque-là n'avait pas pris conscience, le trésor moral de son peuple. Olivier, la vaste culture et le génie psychologique de la France, Christophe, la musique intérieure de l'Allemagne et son intuition de la nature. Christophe ne pouvait comprendre qu'Olivier fût français. Son ami ressemblait si peu à tous les Français qu'il avait vus. Avant de l'avoir rencontré, il n'était pas loin de prendre pour type de l'esprit français moderne Lucien Lévi-Cœur, qui n'en était que la caricature. Et voici que l'exemple d'Olivier lui montrait qu'il pouvait exister à Paris des esprits encore plus libres de penser qu'un Lucien Lévi-Cœur, qui pourtant restaient purs et stoïques. Christophe voulait prouver à Olivier que sa sœur et lui ne devaient pas être tout à fait français. « Mon pauvre ami, lui dit Olivier, que sais-tu de la France ?» Christophe protesta de la peine qu'il s'était donnée pour la connaître. Il énuméra tous les Français qu'il avait vus dans le monde, des Stevens et des Roussins. Juifs, Belges, Luxembourgeois, Américains, Russes, Levantins, voire çà et là quelques Français authentiques. « C'est bien ce que je disais, répliqua Olivier. Tu n'en as pas vu un seul. Une société de débauche, quelques bêtes de plaisir qui ne sont même pas Français, des viveurs, des politiciens, des êtres inutiles, toute cette agitation qui passe sans la toucher au-dessus de la nation. Tu n'as vu que les myriades de guêpes qu'attirent les beaux automnes et les vergers abondants. Tu n'as pas remarqué les ruches laborieuses, la cité du travail, la fièvre des études. « Pardon, dit Christophe, j'ai vu aussi votre élite intellectuelle. Quoi ? Deux ou trois douzaines d'hommes de lettres ? Voilà une belle affaire. En ce temps où la science et l'action ont pris une telle grandeur, la littérature est devenue la couche la plus superficielle de la pensée d'un peuple. Dans la littérature même, tu n'as guère vu que le théâtre, et le théâtre de luxe, cette cuisine internationale faite pour une clientèle riche d'hôtels cosmopolites. Les théâtres de Paris, crois-tu qu'un travailleur sache seulement ce qui s'y passe ? Pasteur n'y est pas allé 10 fois dans sa vie. Comme tous les étrangers, tu donnes une importance démesurée à nos romans, à nos scènes de boulevard, aux intrigues de nos politiciens. Je te montrerai, quand tu voudras, des femmes qui ne lisent jamais de romans, des jeunes filles parisiennes qui ne sont jamais allées au théâtre, des hommes qui ne se sont jamais occupés de politique, et cela parmi les intellectuels. Tu n'as vu ni nos savants, ni nos poètes. Tu n'as vu ni les artistes solitaires qui se consument en silence, ni le brasier brûlant de nos révolutionnaires. Tu n'as vu ni un seul grand croyant, ni un seul grand incroyant. Pour le peuple, n'en parlons pas. À part la pauvre femme qui t'a soigné, que sais-tu de lui ? Où aurais-tu pu le voir ? Combien de Parisiens as-tu connus qui habitaient au-dessus du second ou du troisième étage ? Si tu ne les connais pas, tu ne connais pas la France. Tu ne connais pas, dans les pauvres logements, dans les mansardes de Paris, dans la province muette, les cœurs braves et sincères, attachés pendant toute une vie médiocre à de graves pensées, à une abnégation quotidienne, la petite église qui de tout temps a existé en France, petite par le nombre, grande par l'âme, presque inconnue, sans action apparente, et qui est toute la force de la France, la force qui se tait et qui dure, tandis qu'incessamment pourrit et se renouvelle ce qui se dit l'élite. Tu t'étonnes de trouver un Français qui ne vit pas pour être heureux, heureux à tout prix, mais pour accomplir ou pour servir sa foi ? Il y a des milliers de gens comme moi, et plus méritants que moi, plus pieux, plus humbles, qui, jusqu'au jour de leur mort, servent sans défaillance un idéal, un Dieu qui ne leur répond pas. Tu ne connais pas le menu peuple économe, méthodique, laborieux, tranquille, avec au fond du cœur une flamme qui sommeille. Ce peuple sacrifié, qu'a défendu jadis contre l'égoïsme des grands, mon pays, le vieux Vauban aux yeux bleus. Tu ne connais pas le peuple, tu ne connais pas l'élite. As-tu lu un seul des livres qui sont nos amis fidèles, les compagnons qui nous soutiennent ? Sais-tu seulement l'existence de nos jeunes revues, où se dépense une telle somme de dévouement et de foi ? Te doutes-tu des personnalités morales qui sont notre soleil, et dont le muet rayonnement fait peur à l'armée des hypocrites ? Ils n'osent pas lutter de front, ils s'inclinent devant elle, afin de mieux la trahir. L'hypocrite est un esclave, et qui dit esclave dit maître. Tu ne connais que les esclaves, tu ne connais pas les maîtres. Tu as regardé nos luttes, et tu les as traités d'incohérences brutales, parce que tu n'en as pas compris le sens. Tu vois les ombres et les reflets du jour, tu ne vois pas le jour intérieur, notre âme séculaire. As-tu jamais cherché à la connaître ? As-tu jamais entrevu notre action héroïque, des croisades à la commune ? As-tu jamais pénétré le tragique de l'esprit français ? T'es-tu jamais penché sur l'abîme de Pascal ? Comment est-il permis de calomnier un peuple qui, depuis plus de 10 siècles, agit et crée, un peuple qui a pétri le monde à son image par l'art gothique, par le 17e siècle et par la Révolution, un peuple qui 20 fois a passé par l'épreuve du feu et s'y est retrempé, et qui, sans mourir jamais, a ressuscité 20 fois. Vous êtes tous de même. Tous tes compatriotes qui viennent chez nous ne voient que les parasites qui nous rongent, les aventuriers des lettres, de la politique et de la finance, avec leurs pourvoyeurs, leurs clients et leurs catins. Et ils jugent la France d'après ces misérables qui la dévorent. Pas un de vous ne songe à la vraie France opprimée, aux réserves de vie qui sont dans la province française, à ce peuple qui travaille, indifférent au vacarme de ses maîtres d'un jour. Oui, c'est trop naturel que vous n'en connaissiez rien. Je ne vous en fais pas un reproche. Comment le pourriez-vous ? C'est à peine si la France est connue des Français. les meilleurs d'entre nous sont bloqués, prisonniers sur notre propre sol. On ne saura jamais tout ce que nous avons souffert, attachés au génie de notre race, gardant en nous comme un dépôt sacré la lumière que nous en avions reçue, la protégeant désespérément contre les souffles ennemis qui s'évertuent à l'éteindre. Seul, sentant autour de nous l'atmosphère empestée de ces métèques qui se sont abattus sur notre pensée comme un essaim de mouches, dont les larves hideuses rongent notre raison et souillent notre cœur. Trahis par ceux dont c'était la mission de nous défendre, nos guides, nos critiques imbéciles ou lâches qui flagornent l'ennemi pour se faire pardonner d'être de notre race, abandonnés par notre peuple qui ne se soucie pas de nous, qui ne nous connaît même pas. Quels moyens avons-nous d'être connus de lui? Nous ne pouvons pas arriver jusqu'à lui. Ah, c'est là le plus dur. Nous savons que nous sommes des milliers d'hommes en France qui pensons le même. Nous savons que nous parlons en leur nom et nous ne pouvons nous faire entendre. L'ennemi tient tout, journaux, revues, théâtres. La presse fuit la pensée ou ne l'admet que si elle est un instrument de loisir ou l'arme d'un parti. Les coteries et les cénacles ne laissent le passage libre qu'à condition qu'on s'avilisse. La misère, le travail excessif nous accablent. Les politiciens, occupés de s'enrichir, ne s'intéressent qu'au prolétariat qu'ils peuvent acheter. La bourgeoisie indifférente et égoïste nous regarde mourir. Notre peuple nous ignore. Ceux mêmes qui luttent contre nous, enveloppés comme nous de silence, ne savent pas que nous existons, et nous ne savons pas qu'ils existent. Le néfaste Paris. Sans doute il a fait aussi du bien, en groupant toutes les forces de la pensée française. Mais le mal qu'il a fait est au moins égal au bien. Et dans une époque comme la nôtre, le bien même se tourne en mal. Il suffit qu'une pseudo-élite s'empare de Paris et embouche la trompette de la publicité pour que la voix du reste de la France soit étouffée. Bien plus, la France s'y trompe elle-même. Elle se tait, effarée, elle refoule peureusement ses pensées. J'ai bien souffert de tout cela autrefois. Mais maintenant, Christophe, je suis tranquille. J'ai compris ma force, la force de mon peuple. Nous n'avons qu'à attendre que l'inondation passe. Elle ne rongera pas le fin granit de France. Sous la boue qu'elle roule, je te la ferai toucher. Et déjà, çà et là, de hautes cimes affleurent.